are suffering. People are dying.
Notre maison brûle.
We are in the beginning of a mass extinction.
Et nous regardons ailleurs.
And all you can talk about is money.
Vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent?
Je crois que l'essentiel de ce qui est proposé aujourd'hui relève de la bouffonnerie.
How dare you?
On en a vraiment, vraiment plein le cul.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agissons, le magazine de la transition écologique. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un second numéro. Bonjour Thomas.
Salut Mathilde.
Et bonjour à toute l'équipe. Alors, dans notre dernière émission, nous vous parlions de l'effondrement imminent de nos sociétés. Et depuis, vous ressentez des sueurs froides, des angoisses nocturnes, insomnies et déprimes. Nous sommes désolés de vous annoncer que vous êtes probablement éco-anxieux.
Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave. L'éco-anxiété, c'est une peur par anticipation des destructions causées par la crise écologique et par l'effondrement de notre société. Si des personnes pensent que l'éco-anxiété pousse les individus vers des comportements individualistes ou vers un repli sur soi, c'est le contraire en fait. Les recherches en sciences sociales montrent que la peur de l'effondrement de notre société pousse les personnes qui en ont conscience ou qui sont anxieuses à agir à se mobiliser collectivement.
Alors on parle aussi de solastalgie, mais c'est autre chose. C'est plutôt la détresse causée par la destruction de son milieu de vie.
Agissons.
Agissons. Agissons. Agissons.
Et tout de suite, on va écouter le micro-trottoir de Mathilde, Marie et Maxence.
L'éco-anxiété.
Éco-anxiété, je ne connais pas ce terme.
Anxiété, non, je ne me sens absolument pas concerné par l'éco-anxiété. Simplement parce que je suis anxieux à partir du moment où je me résigne.
Éco-anxiété urbaine ou rurale ou le tout. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu arriver beaucoup ces derniers mois. Je dirais que c'est même arrivé d'un coup. Et je pense que c'est plus ça qui m'a angoissé. C'est que d'un coup, on s'est posé plein de questions que la majorité des Français ne se posaient pas. Et du coup, on a vu ressurgir des débats qui, en fait, sont plutôt anciens. Le futur de la planète, tout le monde, bah, c'est pas nouveau. Mais le fait que tout le monde s'y intéresse, il y a une sorte d'obsession autour de ça. Qui tourne beaucoup au niveau des médias, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que pas un jour se passe sans que sur la chaîne de télé, je vois qu'on parle de l'environnement. Et ouais, je pense que c'est ça principalement qui fait angoisse, c'est qu'on en parle tout le temps. Et en même temps, il y a plein de propositions qui émergent, mais c'est vrai qu'en termes de solutions concrètes qu'on pourrait voir, voilà, dans notre quotidien, bah, c'est pas vraiment au résultat, quoi.
De chez coiffeur, où j'essayais de leur parler de mon anxiété et ils comprenaient pas du tout.
Ah oui,
ils voulaient me vendre du shampoing emballé dans du plastique. Je leur dis oui, mais écoutez, j'utilise un shampoing solide. C'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Du coup, j'en suis presque venu aux mains chez le coiffeur.
Je reconnais le terme.
Vous connaissez ?
Oui, oui. Ouais, bah, c'est forcément anxiogène. Ce qu'on apprend alors régulièrement par les différents rapports scientifiques qui sortent, il n'y en a pas un pour rassurer les gens qui s'intéressent à ces sujets et qui se sentent concernés. Donc oui, bon, ça va pas calmer ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Alors après, est-ce qu'elle est justifiée ou pas c'est pas forcément à moi ni aux citoyens lambda de déterminer si c'est le cas, enfin si en tout cas si c'est justifiable, après tout c'est des scientifiques, enfin on peut pas vraiment se substituer à eux. Donc en tout cas c'est un sentiment que ça m'empêche pas de dormir non plus, mais que je partage quand même, notamment quand on a des enfants, enfin quand même on réfléchit à quoi ressemblera les campagnes, le pays qu'on va leur laisser.
Bon, je suis pas inquiète pour moi parce que maintenant bon ben pour moi je suis quand même déjà assez âgée, donc mais pour mes petits-enfants, oui, pour les ceux qui viennent, oui, je m'inquiète pour eux. Mais c'est surtout de pas écouter trop les informations, sinon on est envahi de mauvaises nouvelles, je trouve, et ça devient anxiogène, quoi. Donc il faut essayer de prendre un peu de recul, parce que de toute façon, comme on peut pas y faire grand chose, à mon échelle, moi je fais des choses, mais bon, après il faut que tout le monde suive.
Il y a un moment, il y a peut-être 2 ans, où je regardais tout le temps des vidéos hyper écolo machin, super futuriste, en mode c'est la fin du monde et tout, et du coup j'étais grave angoissée. Et en fait maintenant je fais la technique de l'autruche, c'est que je regarde plus les trucs, parce que il y a un moment où je devenais folle, je faisais des cauchemars de plastique et tout. Mais maintenant, non, après, je me donne des petits objectifs de vie, ça donne un sens à ma vie de consommer moins de plastique, de faire mes petits trucs à mon échelle. Mais moi, maintenant, à un moment, j'étais vraiment folle, comme je dis, et là, j'ai fait un peu la technique de l'autruche, parce que sinon, ça allait pas du tout.
Bah, moi, je suis assez fataliste et j'ai l'impression qu'on fonce droit dans le mur. J'ai l'impression qu'on a beau faire en sorte de mener des vies à peu près correctes et de mettre en place une forme de consommation et ce genre de choses, ça sert à rien pour le moment. Après, personnellement, je suis pas militant du tout. Je suis vraiment ça dans mon coin. Voilà, je suis végétarien, ce genre de choses. Mais j'ai du mal aussi, du coup, perso, à m'impliquer dans les mouvements, que ce soit Extinction Rebellion ou ce...
Agissons. Agissons.
Bah super, maintenant on passe à l'interview du psychothérapeute Yann Desbrosses, qu'on t'appelait Manon et Pauline.
Agissons.
Agissons. Agissons. Agissons.
Eh bien, bonjour Yann, merci d'avoir répondu positivement à notre demande d'interview. Vous êtes psychothérapeute et analyste psycho-organique. Dites-nous un peu en quoi ça consiste.
Ouais, j'accompagne des personnes qui vivent un mal-être et puis qui ont envie de se sentir mieux dans leur peau, mieux avec elles-mêmes et mieux avec les autres. Et parfois aussi mieux avec leur environnement, puisque je commence à recevoir des demandes de personnes qui souffrent de solastalgie. Je travaille dans région parisienne et avec des adultes, des ados, des enfants et avec analyse psycho-organique, EMDR. Et ça fait une douzaine d'années que je fais ce métier et je suis sensibilisé à la nature parce que j'ai auparavant exercé le métier de danseur avec des spectacles dans la nature où on a dansé dans les arbres beaucoup, ce que je fais encore un petit peu occasionnellement. Et donc pour moi, la nature, c'est vraiment un endroit de ressourcement. Où je me retrouve, où je retrouve le plaisir d'exister, la sensation que je suis relié à mon corps. Et il y a environ 3 ans, j'ai commencé à oser emmener certains de mes patients au parc qui est à côté de mon cabinet, parce que je me suis dit, voilà, si moi, j'y trouve un tel ressourcement dans la nature, pourquoi est-ce que ça ne ferait pas du bien peut-être à certains de mes patients? Et donc, certains d'entre eux peuvent vivre leur séance individuelle en marchant dans le parc, à un certain moment de leur psychothérapie. Et là, ce n'est pas simplement qu'on va parler en marchant dehors, c'est que je leur propose de rentrer vraiment avec leurs 5 sens au contact des éléments naturels, des autres qu'humains, végétaux, animaux, et puis de sentir qu'est-ce qui se passe pour eux à ce moment-là. Et là, ben, ça les amène d'abord à se rapprocher de leur corps, et puis aussi à retrouver la capacité, souvent un peu enfantine, hein, à vivre du plaisir avec la nature. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, c'est très thérapeutique pour certains, à un certain moment du processus. Et ensuite, avec ma collègue Julia Boyer, psychologue, on a démarré un groupe continu dans la nature où un samedi par mois, on emmène les gens en forêt avec l'idée que plus on va se sentir dans un lien de plaisir et de ressourcement avec l'environnement, avec la nature, et plus on va pouvoir se sentir sécure et authentique avec les autres humains. Voilà. On essaie de relier en fait ces deux dimensions, se ressourcer avec la nature et être mieux avec les autres humains.
Nous, on voudrait peut-être aussi vous parler plus de l'éco-anxiété.
Et d'ailleurs,
ouais, vous nous parlez de nature, nous dans l'émission on parle d'éco-anxiété. Vous, comment s'est fait le lien? Comment vous êtes intéressé à ce sujet?
Ben, d'abord, en fait, j'ai commencé à souffrir moi-même de solastalgie ou éco-anxiété. Ce mot éco-anxiété, il parle de l'anxiété qu'on peut ressentir quand on voit les dégradations de l'environnement, l'écosystème qui est grignoté, attaqué, qui se réduit, la biodiversité qui commence à s'écrouler. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'émotions que ça qui nous assaillent. On peut avoir aussi peur pour le futur. On peut être triste quand on voit qu'il y a des espèces qui disparaissent tous les jours. On peut être en colère quand on voit qu'on connaît les solutions qu'il faudrait appliquer pour protéger l'environnement, mais les décideurs ne les appliquent pas pour beaucoup de grandes décisions. Et puis aussi, nous, les citoyens, qui au quotidien consommons, conduisons souvent des voitures ou parfois même prenons l'avion, ben, en fait, on est complètement pris dans un système qui nous amène à grignoter ce qui reste de l'écosystème, et donc on peut se sentir coupable aussi de ça. Et quand on prend conscience que le changement il est énorme pour pouvoir passer à une autre forme de relation avec la nature, on peut se sentir impuissant aussi. Et donc tout ce cocktail d'émotions, la peur, la tristesse, la colère, mais aussi la culpabilité et le sentiment d'impuissance, c'est ce que Glenn Albrecht a appelé à partir de 2003, un philosophe australien, solastalgie, qui veut dire une sorte de souffrance qu'on a quand on se rend compte qu'on est en train de perdre notre lieu de réconfort, qui est la nature. Et moi, j'ai vécu ça et en me disant, mais c'est mon lieu de ressourcement, c'est vraiment un lien qui me rend vivant. Il est en train de s'abîmer, de disparaître localement. et je participe à ça. Voilà.
Avant d'être thérapeute, vous avez d'abord vous-même ressenti ce sentiment d'éco-anxiété. Vous avez vous-même souffert de ce mot, on peut dire ça comme ça.
Ouais, bien sûr, j'ai souffert de ce mal pendant des années en me sentant un petit peu tout seul, parce que quand à table avec des amis ou en famille, j'essayais de partager ce ressenti d'inquiétude, de peur, d'impuissance, les gens avaient un petit peu du mal à comprendre ce que je vivais, ou alors ça déprime les gens qui se sentent parfois un peu coupables aussi, et en général le sujet est vite évacué. Et je me sentais un peu, seul avec quelque chose que je n'arrivais pas tellement à partager, quoi. Et j'ai fait un stage de travail qui relie. En fait, ça, c'est l'américaine Joanna Macy, qui est une des figures qui a vraiment créé le mouvement de l'éco-psychologie aux États-Unis, ou écologie profonde. Joanna Macy, qui est une spécialiste des systèmes, et elle a étudié comment l'écosystème interagit avec les humains, la société humaine, les phénomènes d'interdépendance. Elle a étudié aussi comment ça se fait que quand on dit aux gens dès les années 60-70 aux États-Unis, voilà, notre mode de vie, il est en train de mener à un effondrement de l'écosystème. Si vous aimez vos enfants, peut-être que vous pourriez avoir envie de vous engager dans un changement de mode de vie. Et elle était face à des gens qui comprenaient ce discours, qui disaient « Ah oui, vous avez raison, c'est vrai, il faudrait changer. » Mais les changements ne venaient pas en acte. Et donc elle a commencé à se poser la question avec d'autres psys, des écologistes qui se sont mis en dialogue. Comment ça se fait qu'on prend conscience que si on consomme de la même façon, on va détruire le monde vivant sur lequel on est appuyé et donc nous détruire nous-mêmes ? Mais on n'arrive pas à changer. Et il y a eu tout un ensemble d'études de psy et d'écologistes qui se sont mis en lien et qui a donné en fait l'éco-psychologie ou l'écologie profonde, et qui consiste à comprendre pourquoi on a du mal à transitionner, à faire une transition écologique, et puis à proposer des expériences pour soutenir nos processus de transition. C'est un travail qui est formidable et qui m'a vraiment aidé à moins souffrir de la solastalgie. Alors j'ai encore de la peur, une certaine tristesse et de la colère quand je vois comment l'humanité a du mal à transitionner. Mais en fait, grâce à ce travail-là, le travail qui relie, j'ai réussi à faire des actes concrets dans lesquels je mets mes actes en accord, plus en accord en tout cas, avec mes ressentis et mes convictions. Voilà.
Et donc, du coup, concrètement, vous avez fait quoi pendant ce stage, justement, pour vous rapprocher de cette nature et de vous sentir mieux profondément ?
Oui, alors concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on retrouve d'abord les émotions qui nous relient avec la nature. En fait, nos vies urbaines nous dissocient de l'écosystème, des autres que humains, des végétaux, des animaux, et même de la météo, des minéraux. Enfin, en fait, on vit dans des boîtes, hein, on travaille dans une boîte. Après, on se déplace dans une caisse pour éventuellement sortir en boîte, et on finira dans une boîte qui a un cercueil. On passe d'une boîte à l'autre. Et c'est ça, nos vies. Et donc, on a un déficit vraiment de lien sensoriel, émotionnel, avec la nature, qui est vraiment celle qui fonde nos vies, quoi. Et donc, dans ce stage, le premier jour, on va retrouver des sensations et des émotions agréables. C'est vraiment la gratitude pour tout ce que la nature nous donne. L'air qu'on respire, les fruits et les légumes qu'on mange, la beauté, le chant des oiseaux, la poésie, on va vraiment retrouver le sentiment de gratitude. On va se relier émotionnellement à tout ce qu'on peut vivre de plaisant avec la nature. Et puis le deuxième jour, on va vivre quelque chose de beaucoup plus douloureux, mais important. On va pouvoir partager ensemble toutes les émotions douloureuses que l'on ressent quand on assiste aux dégradations de l'écosystème. Et là, il y a un cercle dans lequel on partage, chacun va partager en fait la peur, la colère, la culpabilité, le vide, la détresse. Et c'est très émouvant que de pouvoir être enfin dans un lieu où c'est possible en fait d'exprimer toutes ces émotions qu'on nous a entraînés à refouler, à cacher habituellement, parce que quand on les exprime, on nous dit « t'es un rabat-joie, tu arrêtes, tu fais chier tout le monde ». Donc là, on peut y aller. Et ça fait beaucoup de bien, parce que comment dire, ça nous encombre beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, ça m'encombrait beaucoup, ces émotions-là. Et puis, on se sent relié avec d'autres, on se sent moins seul. Et le troisième jour, ben, on va se promener dans la nature, et là, on pose un autre regard sur les végétaux, sur les animaux, sur le paysage. En fait, on regarde les autres qu'humains non plus comme des choses, mais comme des êtres. Et on rentre dans un état de dialogue, c'est-à-dire qu'on écoute, en fait, tout ce qu'on voit, avec cette intention de se dire, mais si jamais, là, il y a des messages qui me sont adressés, on imagine, hein, on ne rentre pas dans des croyances, mais c'est juste dans l'imaginaire. On se dit, tiens, et si, dans le chant de cet oiseau, par exemple, il y avait un message pour moi maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être? Et on rentre dans cette expérience un peu poétique, imaginaire, d'écouter qu'est-ce qui pourrait m'être dit là. Et c'est intéressant parce qu'il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire quand on se met dans cet état de réceptivité, aujourd'hui, on sait, les scientifiques savent de mieux en mieux expliquer que les plantes même ont des systèmes pour percevoir les informations, pour traiter les informations, pour prendre des décisions. La cognition végétale commence à être de mieux en mieux comprise. Et donc, ce que faisaient les peuples premiers quand ils dialoguaient avec la nature sous forme de quête de vision, par exemple, dans la tradition chamanique, aujourd'hui, on commence à avoir des idées sur à cause de quoi ça marchait. Et donc voilà, ce troisième jour, on rentre dans un état d'ouverture et de dialogue avec l'écosystème. Et puis le quatrième jour, on fait un truc qui est super, c'est qu'on s'accompagne par deux, on se choisit par deux, et là, on va se parrainer dans la création d'un projet de changement concret, même un petit truc. C'est-à-dire que chacun va laisser venir, ok, moi je peux faire quoi, même très modeste, même très petit, pour faire un pas dans la transition écologique, pour moi, là où je suis. Pas un truc fou, un truc juste réaliste. Et on s'accompagne par deux. C'est-à-dire que l'autre va me poser des questions. Oui, mais alors comment est-ce que tu pourrais le faire? Tu aurais besoin de quoi? Tu aurais besoin de quel délai, etc. Et donc ensuite, on est deux écopotes, on s'appelle écopotes. Et donc, on va s'appeler tous les 15 jours. On va dire, alors t'en es où, toi? Et donc, après le stage, en fait, pendant plusieurs mois, on s'accompagne dans la réalisation concrète de notre projet de transition.
Et du coup, cette expérience, ça vous aide pour guider vos patients maintenant, aujourd'hui? Et vous les incitez peut-être à participer à ce stage ou vous leur prodiguez d'autres conseils ou...
Alors, en effet, là, je commence à recevoir donc, des personnes qui souffrent de solastalgie. Je pense à une personne, appelons-la par exemple Alice, ce n'est pas son vrai nom, hein, et qui vient me voir récemment à mon cabinet et elle dit, Alice... c'est la crise d'angoisse. Hein. Elle a vu des vidéos sur l'effondrement, elle a lu les livres sur l'effondrement, elle est en panique, elle a une trentaine d'années, elle dit qu'elle ne fera pas d'enfant plus tard. Hein. Et puis elle se dit, mais j'aurais jamais voulu savoir tout ça, j'aurais préféré ne pas le savoir. Voilà. Mais elle le sait maintenant. Voilà. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, de poids, de présence dans sa vie quotidienne. Et je l'accompagne dans la séance de psychothérapie individuelle, Alice, et je sais que le moment venu, après quelques temps, je lui proposerai d'aller faire un stage de travail qui relie. Mais dans les premiers temps, je me mets à l'écoute. Quand elle me parle de sa peur de l'effondrement, de quel effondrement elle me parle? Alors bien sûr qu'il y a l'effondrement du dehors, hein, celui... qui est déjà engagé malheureusement dans l'écosystème en termes de biodiversité. Mais je lui demande, et dans votre histoire, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Et là, alors bien sûr, je ne peux pas vous dire le contenu, mais voilà, elle me raconte qu'il y a eu un moment où sa famille s'est effondrée suite à un événement traumatisant, un événement qui n'a pas pu être soigné dans sa famille à l'époque, qui n'a pas pu être pris en charge. Et en fait, cet effondrement qu'elle voit au dehors, il fait écho à cet effondrement qu'il y a eu dans sa famille et qui la menace encore. Et donc, c'est là où c'est délicat d'accompagner la solastalgie, c'est que, en fait, ces grandes angoisses qu'on a quand on voit ce qui se passe autour de nous, elles réveillent aussi nos angoisses de l'intérieur. À une époque, Johanna Massier le raconte, quand elle faisait sa psychothérapie dans les années 70, elle disait « Oh, je suis triste pour la planète Terre qui est à l'époque déjà attaquée, dégradée, etc. » Et elle rapporte que sa psy lui disait « Non mais écoutez, arrêtez de nous parler de la planète Terre, en fait. La Terre, c'est votre mère et vous avez un problème avec notre mère. Parlez-nous plutôt de votre mère. » C'est-à-dire qu'à l'époque, les psys ne pouvaient pas entendre qu'il y avait une source d'angoisse réelle au dehors. Ils avaient tendance à tout ramener à papa, maman, la famille d'origine. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas que ça. Cependant, quand j'accompagne Alice dans son processus pour traverser ses angoisses, je suis obligé d'accueillir ses angoisses du dehors et ses angoisses du dedans. Et donc, c'est un processus assez complexe. Mais le moment venu, quand elle aura, je dirais, soigné ses angoisses du dedans, hein, ce sera le moment d'aller faire ce stage, le travail qui relie, où là, elle va pouvoir rencontrer d'autres gens aussi et s'engager dans des projets de transformation concrète.
D'accord. Et justement, pour revenir un peu sur cette angoisse, cette peur, donc, c'est forcément un sentiment humain. Et souvent, la peur, des fois, elle peut nous tétaniser. Donc, ça nous pousse à ne pas entrer dans l'action, mais aussi, des fois, elle nous pousse aussi à nous surpasser. Par exemple, quand on a peur d'être écrasé par une voiture, avec l'adrénaline, on court très, très vite.
Oui.
Alors, est-ce que vous pensez que la peur, ça peut justement pousser parfois à l'action ou plutôt amener à l'inaction?
J'ai l'impression que c'est comme le trac. Moi, j'avais quand même un petit peu de trac là avant cette interview radio, mais c'est un trac qui est stimulant, parce que j'avais envie d'en parler avec vous de ce sujet-là. Ça, c'est la peur, je dirais, qui me donne de l'énergie. Mais quand elle atteint un certain seuil, si c'est une peur énorme, elle va être paralysante et on va avoir des comportements de prostration. On va se prostrer. Mais c'est un petit peu d'ailleurs ce qui se passe avec l'humanité aujourd'hui. C'est que, on le sait, l'image est connue, on va dans le mur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une frange de la population qui se mobilise et qui rentre dans des processus de transition, j'essaie de faire partie, vous en faites partie, il y a beaucoup de gens qui se mettent en mouvement, mais pour beaucoup d'entre nous aussi, c'est tellement flippant qu'on va avoir tendance à se couper de cette réalité. On préfère ne pas le voir, comme disait Alice d'ailleurs, j'aurais préféré ne pas savoir. Et on va parfois avoir tendance à rentrer dans le déni, c'est-à-dire « mais ça n'existe pas, tout ça, vous racontez n'importe quoi ». Pourquoi on dit ça? C'est irrationnel, parce que les scientifiques aujourd'hui l'ont suffisamment démontré. Et en fait, on peut avoir tendance comme ça à ce que la peur nous fasse rentrer dans le déni, parce que c'est insupportable, c'est juste trop douloureux. Et donc, elle est à double tranchant, la peur.
Eh bien, justement, dans le micro-trottoir qu'on entendait il y a quelques minutes avant notre interview, on entendait des témoignages, on entendait une personne qui disait, par exemple, « Moi, je n'écoute plus les informations parce que ça me donne trop de mauvaises infos. » Ou quelqu'un qui disait également « Moi, je fais l'autruche. Je n'ai pas envie d'écouter ces informations. » Donc, vous nous parlez de déni, c'est exactement ça. Comment ça, pourquoi il y a ce processus qui se passe dans le cerveau de certaines personnes et pourquoi pas dans celle d'autres personnes?
Alors ça se passe en fait chez nous tous, hein. On a tous évidemment ces mécanismes de déni. Ce qui est très compliqué, c'est que notre société nous invite à consommer pour montrer qu'on existe et pour montrer notre réussite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les messages publicitaires qu'on a, ils nous invitent à avoir une grosse voiture, une grosse maison, à faire un gros voyage au bout du monde pour montrer qu'on a réussi. Et donc la consommation, elle est un peu le support, elle est devenue le support identitaire et narcissique. Voilà. Donc c'est très compliqué d'y renoncer. Hein. Et puis aussi, commencer à regarder cette réalité-là de ces dégradations, eh ben, c'est voir qu'on fait partie de ce système, on fait partie de ce monde industriel qui exploite et qui détruit. Et là, on ouvre la porte d'un sentiment de culpabilité qui est très inconfortable. On n'a pas du tout envie de se sentir coupable. Surtout qu'on a l'impression de ne pas l'avoir vraiment choisi, parce que nos parents nous ont dit « Tiens, tu prendras une voiture, tu prendras l'avion, tu consommeras ci, tu consommeras ça. » Donc, on se retrouve à se sentir coupable de quelque chose qu'on n'a pas vraiment choisi. On n'a pas du tout envie de ça. Tout nous pousse à dénier, en fait, ces réalités.
Et justement, ce choc ressenti, ce déni, cette culpabilité, comment vous prodiguerez justement un conseil pour surpasser ça et que ça devienne une action, en fait? C'est possible?
Oui, bien sûr. Ce qui va être vraiment transformateur, c'est de se resensibiliser émotionnellement au contact avec la nature. C'est-à-dire aller dehors, aller se promener dehors, aller écouter les animaux, les plantes, le soleil, la pluie, aller sentir la terre, vraiment se remettre à l'écoute de cette capacité qu'on a, nous, les humains. Eric Fromm l'appelle biophilie, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur de nous une capacité instinctive à aimer le vivant, en fait. Et ça, quand on est dans nos boîtes et qu'on regarde des vidéos d'animaux sur un écran, c'est pas suffisant, quoi. Il faut sortir. Il faut sortir et réinventer des liens avec le dehors. Donc, par exemple, moi, j'ai des poules dans mon jardin. Et j'ai pas un grand jardin pourtant, hein, mais c'est vrai que quand on mange les œufs de nos poules, bah, y a un sentiment de gratitude, y a le plaisir de cet échange avec l'animal. Et ça, c'est juste un petit exemple, mais c'est vraiment recréer un lien plus sensible et plus réel avec le vivant.
Et peut-être dès le plus jeune âge aussi.
Oui.
Dans le micro-trottoir, oui, il y a des personnes aussi qui... Donc, tout à l'heure, je vous parlais du déni, et puis après, il y a celles qui sentent encore plus l'anxiété, qui nous disent, par exemple, les rapports scientifiques, ça ne nous rassure pas. Quand je pense à mes enfants, à mes petits-enfants, je m'inquiète du monde qu'on va leur laisser. Donc, si on devait résumer un peu notre échange et qu'on devait juste garder les conseils qu'on pourrait donner à toutes ces personnes, que ce soit des stages en collectif qui nous rapprochent de la nature, que ce soit juste se rapprocher de la nature de façon individuelle, ou que ce soit aussi une action un peu plus engagée. Nous, on aime bien parler de désobéissance civile. Voilà, qu'est-ce qu'on garderait ? Qu'est-ce qu'on garderait comme conseil ?
Se relier au vivant, sortir, se reconnecter émotionnellement au vivant, et à partir de là, s'ouvrir à comment je peux mettre mes actes en accord avec ce que je ressens. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est que quand on ressent, par exemple, de l'amour pour la nature, mais que dans nos actes, on la détruit. Et là, en fait, on se déteste soi-même. On se dit « je suis qu'un gros connard ». Et on se fait du mal quand on vit ça. Et donc, comment on va faire des petits pas pour mettre nos actes plus en accord avec ce qu'on sent et ce qu'on pense ? Et c'est ça, la clinique de la solastalgie. Et c'est ça qui fait qu'on peut redevenir à la fois avoir plus d'estime pour soi-même, et puis se dire, bah, si je fais des enfants, je n'aurai pas honte devant eux.
Agissons.
Agissons. Agissons. Agissons.
Le magazine de la transition écologique.
Merci beaucoup à Yann d'avoir accepté cette interview et merci à Manon et Pauline pour l'avoir menée.